Bonjour, je peux vous poser une question pour une radio?
Si vous voulez.
Vous êtes venu voir quoi?
Le cirque Arcaos, j'ai déjà vu à la télévision il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 3, 4 ou 5 ans, un reportage sur eux, c'était magique. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient à Montpellier, je suis venue. Voilà.
Bonne soirée.
Merci.
Bonsoir, je peux vous poser une question?
Oui.
Vous êtes venu voir quoi?
Un spectacle de cirque.
Vous connaissez le cirque?
Oui, je connais le cirque. Pas tous les cirques.
Et Arcaos, vous les connaissez?
Oui.
Ouais.
Oui.
Vous avez déjà vu des choses d'eux?
Oui, un spectacle à Saint-Jean-de-Védas.
Ah oui?
Oui, oui, oui. Et ma compagne en a vu il y a 25 ans. 20 ans. Si, si.
Il y a combien de temps que vous avez vu Arcaos?
88, 9 par là.
Quels souvenirs vous en gardez?
Une révélation. Waouh, ça peut être ça le cirque. Voilà.
Bon.
Ils balançaient des poules du haut du chapiteau et ils montaient avec une tronçonneuse. Quand on a 10 ans, ça marque.
Mardi.
Backstage.
Je peux vous poser une question pour la radio?
Oui.
Vous allez écouter quoi ce soir?
Ben, une émission de radio, je sais pas, c'est pas moi qui ai allumé le poste.
Vous savez au moins sur quelle radio vous êtes?
Ah oui, on est sur Divergence FM 93.9.
Ce soir, il est question de cirque. Vous connaissez le cirque?
Ah oui, bien sûr, oui, je connais le cirque. Enfin, pas tous les cirques, hein, mais...
Et le cirque contemporain?
Oui, oui, le cirque contemporain, je connais aussi. Il y a moins de tigres, mais... Mais souvent, il y a plus de cirque.
Et Arcaos, ça vous dit quelque chose?
Ah oui, Arcaos, c'est une compagnie mythique du cirque contemporain. Ça fait 30 ans que ça existe, Arcaos. C'est à cause d'eux qu'on s'est mis à parler de cirque contemporain. C'est les gens qui ont révolutionné le cirque complètement. C'était un truc complètement nouveau. Il y avait Arcaos, il y avait la Fura del Baos, il y avait le Cirque du Soleil. C'était des gens qui ont balancé à la fenêtre tous les codes du cirque. Ils ont fait voler en éclats tout le folklore traditionnel du cirque. Ils se sont mis à faire autre chose. Arcaos, c'était un cirque punk. C'était des gens qui faisaient des choses absolument incroyables sous un chapiteau, ou ailleurs que sous un chapiteau d'ailleurs. Ils ont changé complètement l'esthétique du cirque. Aujourd'hui, c'est différent. Arcaos, c'est plus un cirque punk, c'est un cirque sage. Ils ont vieilli, quoi.
Justement, c'est qui ils ont vieilli?
Celui qui dirige Arcaos, c'est toujours Guy Carrara, c'est un des fondateurs d'Arcaos, qui est un metteur en scène de théâtre, qui est venu au cirque un peu par hasard, et qui a aidé beaucoup d'ailleurs à dynamiter les codes du cirque, comme ça, parce que, comme il le dit souvent, il n'aime pas le cirque. Donc ça lui permettait de mettre à bas tout ce qu'il n'aimait pas dans le cirque, et de faire quelque chose de complètement différent. Et c'est pour ça qu'Arcaos est devenu une espèce de mythe du cirque contemporain, même si aujourd'hui, Arcaos fait d'autres choses, beaucoup de formation et beaucoup de travail sur les métiers du cirque. Donc c'est quelque chose d'un peu spécial. Par exemple, je les ai vus là au Domaine d'eau. C'est le lieu qui est dirigé par Christopher Kreims maintenant, le Domaine d'eau.
Christopher Kreims, que nous avons reçu lors d'un mardi miam miam le mois dernier.
Absolument, en décembre, un Anglais qui aime bien le cirque contemporain. Et là, ils étaient là au mois de décembre pour un spectacle qui est un peu spécial, puisque c'est un spectacle qui est fait par des gens qui sortent juste d'école de cirque. C'est leur premier spectacle professionnel. C'est de l'insertion professionnelle, c'est un programme d'insertion professionnelle. Et ça, c'est une reprise du dernier grand spectacle d'Arcaos qui s'appelle In Vitro, qui est un spectacle sur la génétique.
Après cet éclairage, je vous propose d'écouter le troisième volet consacré à Arcaos et au cirque contemporain. Troisième et dernier volet de cette série. Et nous revenons plus particulièrement sur cette soirée de décembre. Nous avons pu assister au spectacle d'Arcaos au Domaine d'eau.
Thank you.
Aujourd'hui, c'est un projet un peu spécial pour lequel vous êtes au Domindo. C'est un projet d'insertion professionnelle monté avec des équipes, des écoles internationales. Ça se passe comment, un projet comme ça?
Écoute, c'est un petit peu le hasard aussi qui provoque ce genre de choses. On avait une relation depuis plusieurs années avec l'école de cirque de Rio. Raquel allait donner des stages là-bas. Elle venait avec des profs de l'école donner des stages au CREAC à Marseille.
Guy Carrara.
Et puis j'ai rencontré le nouveau directeur. Et au cours d'une discussion, il m'a dit « Mais ça existe, les scénarios de pièces de cirque ?» Et je lui ai dit « Écoute, il n'y en a pas beaucoup. Moi, il m'arrive d'en écrire avant de travailler, pas toujours, mais il m'arrive d'écrire au préalable. » Et il m'a dit « Tu m'enverras un truc ?» Et je lui ai dit « Oui. » Et puis, par hasard, 3 mois après, les éditions de l'Entretemps qui sont à Montpellier me demandent si j'ai un scénario à publier. Et en fait, je l'avoue, j'en avais qu'un qui était bien propre, que j'avais bien finalisé à l'époque, avec une dessinatrice qui a fait des beaux dessins, c'était pas mes gribouillis à moi. Et donc, j'ai dit à l'éditeur, j'en ai un sur lequel je n'ai aucun travail, donc je t'envoie celui-là. Et j'ai repensé à mon ami directeur de l'école de cirque de Rio, et je lui ai envoyé la même chose. Et de ce hasard-là est né ce projet, en fait, puisque par la suite, le directeur de cette école m'a demandé de venir remonter in vitro ce scénario avec ses élèves dans son école. Et comme il a beaucoup d'élèves, il m'a demandé d'en monter 2. Et en fait, à partir de là, on a discuté, on a décidé non seulement de travailler sur un projet d'insertion professionnelle, mais sa demande correspondait aussi au fait qu'il voulait secouer son équipe pédagogique. Donc il voulait qu'on travaille avec son équipe pédagogique dans le cadre d'une création à l'intérieur de son école. Parce qu'effectivement, tous ces profs étaient d'anciens artistes, ça tous, mais vieillissants, qui sont fonctionnaires dans l'école depuis plus de 20 ans. Et donc voilà, il y a une espèce d'habitude comme ça, on refait toujours les mêmes choses. Donc il voulait stimuler tout ça. Donc il a dit, en faisant une création dans mon école, on va entraîner toute l'équipe à revoir, à s'interpeller en tout cas. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est la première fois que quelqu'un me disait « Reviens monter une pièce ». Donc le travail sur le répertoire, qui est quand même une idée qui progresse, mais enfin très très lentement dans le domaine du cirque. Donc j'ai dit « Bon, c'est l'occasion, on va faire en même temps de l'insertion professionnelle, en même temps on va travailler sur le répertoire ». Le fait qu'il me demande 2 spectacles fait qu'on a divisé un petit peu le projet en disant « On va monter une version dite à l'identique avec le décor d'origine » et avec les musiques d'origine, avec des élèves en cours de formation, donc projet pédagogique, puis un deuxième avec des jeunes qui sont de l'école, mais diplômés, donc des jeunes professionnels, puisqu'ils ne sont plus dans l'école, ils sont sortants. Et il se trouve par hasard qu'à cette époque-là, on m'a aussi interrogé, le Centre National des Arts du Cirque m'a fait participer à une réflexion sur l'insertion professionnelle des jeunes qui sortent du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-Champagne. Et là, ils m'ont dit « Bon, alors, qu'est-ce que tu proposes ?» J'ai dit « J'ai un projet avec Rio. Si vous voulez, je demande à Rio s'il m'autorise à laisser 2 places pour vous. » Et Rio m'a dit « Oui, d'accord, 2 du CNAC en France, ok, ça va aller, du moment qu'il y a encore beaucoup de Brésiliens. » Et puis, le hasard encore fait que très peu de temps après, la Fédération Européenne des Écoles de Cirque me fasse participer à un débat sur aussi l'insertion professionnelle, le rapport de la formation et du marché. Et à la buvette, j'ai parlé de mon projet, et là, toutes les écoles voulaient participer également. Donc j'ai dit, écoutez, j'ai pas de la place pour tout le monde, mais on a quand même rajouté la place pour un élève de Circus Space, donc l'école supérieure de Grande-Bretagne à Londres, et puis une autre place pour l'ESAC, l'école supérieure des arts du cirque de Belgique, donc à Bruxelles.
Finalement, ce projet avec l'ENC, dont tu as été une des élèves, c'était un projet que t'as porté, toi, vraiment beaucoup.
Oui, c'était un rêve de revenir dans mon pays, de revenir dans mon école, l'école que j'aime, qui m'a ouvert les portes pour un métier merveilleux. Et je voulais faire quelque chose comme un retour. Un retour, et l'école m'a donné quelque chose, je voulais rendre à l'école quelque chose que j'ai vécu et que je voulais donner. Donc du coup, c'est vrai, je portais beaucoup ces projets en pensant à ça, les retours. J'ai reçu et il faut que je retourne à ces gens-là, à ces pays-là, quelque chose. Donc c'était très bien.
différent, le spectacle, le produit final, il est différent d'un produit classique, en tout cas de ce que Arcaos a pu monter ces 20 dernières années.
Bon, on a toujours eu des jeunes qui sortaient très souvent de l'école. Là, l'originalité, c'est qu'ils sortent tous de l'école, donc ils n'ont pas d'expérience. C'est un peu particulier, mais en même temps, c'est clair du départ. Donc nous, on a une méthode, une méthodologie qui tient compte de, de cette problématique, qui est effectivement, ils découvrent le monde, ils découvrent tellement de choses qu'ils sont en train d'apprendre là, qu'on se met donc au service de cette problématique. Donc du départ, c'est intégré, c'est différent, ça va être difficile sur un temps très court de leur faire intégrer tellement de choses qui sont évidentes par la suite, mais qui ne sont pas... au démarrage. Donc c'est ça, il y a une difficulté au démarrage parce que c'est un clan de jeunes. Il n'y en a pas un quart, un tiers ou même que la moitié. C'est tout le monde. Hein. Donc il n'y a pas de transmission à l'intérieur du groupe par d'autres générations, des artistes plus anciens. On a fait la transmission dans l'encadrement. Hein, donc ce sont d'anciens artistes d'Arcaos qui sont venus encadrer à Rio. Certains avaient fait partie d'ailleurs du premier In Vitro il y a 10 ans. Et puis là, sont venus accompagner comme Valérie, donc, que tu as rencontré ici, mais aussi Dirk, qui est enseignant au CNAC maintenant, et qui est venu à Rio aussi, et qui était dans In Vitro 99. Donc la transmission, on ne l'a pas fait à l'intérieur du groupe, parce que d'habitude, ça se fait par l'intergénérationnel à l'intérieur de la compagnie. Voilà, donc c'est un petit peu spécifique. Donc pour nous, on est vraiment concentré sur le fait qu'on fait l'insertion professionnelle. Voilà. Après, le produit fini, il est ce qu'il est. Ça veut dire que comme toutes les créations, de toute façon, on a eu un temps donné de travail. Et puis voilà, donc il en manque toujours un peu. Mais en même temps, nous, on est très contents parce qu'on voit que c'est un spectacle qui a un grand potentiel. Et voilà, on y croit. Et puis on voit que ces jeunes progressent en fait très très rapidement, hein, parce que en 3-4 mois déjà ils prennent du métier, voilà, et ça va assez vite.
C'est la fin là du processus d'insertion, enfin du contrat en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors maintenant, sur les 9, donc il y en a 3 qui vont pas continuer. Sur les 6 Brésiliens, donc il y en a 3 qui vont auxquels on ne renouvelle pas le contrat. Et donc, eux vont rentrer au Brésil avec cette expérience qu'ils ont eu la chance de vivre. Et donc, on va leur faire un petit dossier de ce qu'ils ont vécu et puis c'est un petit peu comme un compte-rendu de stage. On va leur dire, voilà, il s'est passé ça, tu as vécu ça, tu es comme ça, toi, tu devrais faire ceci, cela, voilà nos conseils. Et profite bien de cette expérience que tu as vécue. Donc pour chacun des 3, c'est un petit peu différent.
Et avec les autres, vous allez essayer de continuer le spectacle, de le réécrire,
Oui, alors effectivement, là on a la structure et la base, mais avec les 3 nouveaux artistes qui vont arriver, donc un Africain, un Belge, un Français, on va, avec leur personnalité et puis les techniques qu'ils utilisent, on va donc modifier un petit peu le spectacle. On va l'enrichir, hein, essentiellement. Mais la structure est à peu près bonne. On est à peu près sûr de la structure. Il y a beaucoup de choses à améliorer. On va profiter donc de cette arrivée d'un tiers de nouveau, donc, pour retravailler tout le mois de janvier et puis passer un pas. This house is a circus, berserkers fuck. We tend to see that as a perk. Though look what it's done to your friends. Their memories are pretend. And the last thing that they want is for the feeling to end. This house is a circus, berserkers fuck. We tend to see that as a perk. No, look what it's done to your friends. Their memories are pretend. And the last thing that they want is for the feeling to end. There's a room full of trouble and there's lovers to be at. Those walls are made sinners that are such lovely lads. Scaling the corridors for maidens in the maze. In any anomaly, you slip into familiar ways. And we're
C'est dur la carrière du circassien au Brésil? C'est plus dur qu'en France?
C'est dur la carrière de circassien.
Tout court.
En Brésil, en France, c'est différent, mais c'est toujours dur. Parce que le moins dur, c'est l'opportunité de travail. Que ici, c'est vrai qu'en France, tu as plus d'opportunités qu'en Brésil. Mais c'est toujours dur parce que physique, c'est un travail physique. Tu as toujours en tournée et tu n'as pas bien de maison et ton place, tu vois. Et pour ça, c'est dur. Mais en Brésil, c'est plus difficile pour avoir une vie équilibrée avec l'argent et tout ça. Tu dois... C'est beaucoup d'efforts pour faire, pour être bien. Mais il y a aussi autre chose, il y a différent.
Tu travailles combien d'heures par jour? Combien de temps tu t'entraînes? Combien de temps tu es obligé de faire travailler ton corps?
Normalement, quand j'ai pas de spectacle, j'aime bien avoir 5-6 heures au jour. Je me ferme pour manger, un jour tranquille d'entraînement, 6 heures, 7 heures, je sais pas. Ça dépend qui est ce que j'ai en tête pour faire. Mais 6 heures, pour moi, ça va. Comme ça, je peux faire préparation physique, faire un peu de création, faire un peu d'essai, un peu de tout.
Quand tu es en spectacle, une journée comme aujourd'hui, tu as commencé le travail à quelle heure?
Aujourd'hui, j'ai commencé à 3h, le spectacle est à 7h, je suis arrêtée à demi-heure, plus ou moins. Non, je ne sais pas, mais toujours 5h, ça va pour faire. S'il y a un spectacle ou pas. Mais s'il n'y a pas, je peux faire 5, 6, 7, 8. Mais s'il y a le spectacle, c'est bien. Parce qu'ici, on a 6 jours. Alors, c'est bien pas faire beaucoup chaque jour, parce que sinon, de dernière. C'est difficile.
Alors Sarah,
oui,
raconte-moi. Qu'est-ce que c'est toi ton agrès?
Mon agrès?
Oui, ta spécialité.
Ma spécialité, c'est les fils souples. Et dans le spectacle, je fais plutôt les fils souples et la femme parfaite. Donc, je joue avec mon personnage et avec les deux hommes en laboratoire et le professeur. Ouais. Voilà. Et là, je fais un peu de danse, de mama, tout un petit peu.
Tout un petit peu. Tu parles bien français?
Ça va, pas trop.
Tu as appris le français quand?
Au CNAC, quand je suis venue en France, quand j'avais fait l'école du cirque en France il y a 300.
Voilà. Et avant, tu avais fait une école du cirque en Allemagne?
Oui, voilà. Avant, j'en ai fait une école du cirque à Berlin. Ouais. Et après, j'ai travaillé un an, un petit peu, et après, j'ai décidé de faire plus, de rencontrer le cirque en France.
Et alors, Arcaos, c'est comment?
C'est intéressant. Voilà.
C'est un drôle de mélange, hein? Tous les Brésiliens, un Anglais.
Oui. C'est super intéressant avec les Brésiliens, avec l'anglais. Voilà. Arcaos, c'est intéressant.
Tu as trouvé ta place rapidement dedans?
Oui, mais on n'est jamais. On cherche toujours. Justement, dans le spectacle, on n'a jamais fini de chercher, d'y aller plus loin, de développer. Voilà.
C'est une drôle de discipline, la corde souple. On n'en voit pas beaucoup.
Non, on ne voit pas souvent parce que c'est difficile.
Oui, c'est difficile. Hein.
Oui, c'est difficile. Voilà. Je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est une bonne rapport avec la vie.
Ouais.
On est toujours en train de chercher l'équilibre, ouais. Comme dans la vie. Si on tombe, il faut remonter, comme dans la vie.
Tu travailles beaucoup?
Oui, pas mal. Ouais. Il faut, sinon le fil souple, c'est trop dur. Il faut toujours répéter, il faut toujours reprendre. C'est ça qui est le plus chiant. Ouais. Mais bon.
Salut Louis.
Salut.
Toi, tu es un artiste brésilien qui a été formé en Belgique. Tu fais le pont comme ça entre l'Europe et le Brésil.
Oui, bah, pour les projets, je suis les Belges de l'histoire. Moi, j'ai vécu 4 ans là-bas. J'ai fait les AX, c'est une école de 3 ans. Et voilà.
Dans le spectacle, tu es le méchant, le professeur. Et c'est quoi ta spécialité?
Ma spécialité au cirque, c'est la jonglerie. Je suis jongleur, mais aussi acrobate. Et mes spectacles, je joue aussi la batterie, je fais du patin. Et voilà, je suis le professeur, mais pas... Voilà, je suis méchant, mais pas 100% méchant, quoi.
En même temps, tu as un élément important du spectacle, tu es celui qui permet de raconter, en fait, l'histoire.
Voilà. On dirait les protagonistes, en français. Oui, voilà. Je suis le protagoniste.
Ça demande beaucoup d'entraînement, la jonglerie. Et beaucoup de concentration, non?
Oui, mais pour ces spectacles spécifiques, j'ai fait déjà des choses que j'ai fait depuis longtemps. Il y a ici les trois figures qu'il faut bien que je bosse avant, parce que c'est délicat, quand même. Mais sinon, ça va. Mais la jonglerie, c'est une chose que tu dois faire tous les jours, quoi. Parce que sinon...
Tous les jours, tu t'arrêtes pas?
Bon, maintenant, je m'arrête quand même. Pendant le week-end et tout, je fais des pauses. Mais je passais, je sais pas, je dirais 7-8 ans de ma vie, presque tous les jours.
Quel âge tu as, Louis?
27.
27 ans? On peut jongler jusqu'à quel âge?
Tard.
Par rapport à un acrobate, c'est une durée de carrière qui peut être plus longue?
Ouais, l'acrobatie, on arrête vers, je sais pas, 40 ans, ou même à 20, ça dépend. Ça dépend de chacun. Mais la jonglerie, on peut jongler jusqu'à vieux, quoi. Ouais. C'est pas trop physique, c'est surtout la tête.
Ouais.
C'est la coordination.
Mardi.
Backstage.
Je peux vous demander vos impressions, hein, puisque vous étiez en train de les donner à tout le monde.
Je trouvais que c'était super intéressant. Parce que dans un premier temps, on a quelque chose qui serait plutôt autour de la morbidité, avec quelque chose de déshumanisant. Voilà, tant qu'ils sont dans du double. Et au moment de la séparation, c'est vraiment la pulsion de vie. Avec beaucoup de sensualité. Et en plus, c'est vrai que je crois que ce groupe était vraiment, on va dire, ils étaient tous géniaux, quoi. Vraiment, je crois qu'il y a un gros, gros, gros travail derrière. Voilà. Donc, je suis super contente d'avoir vu ça.
Tout le monde est d'accord? Oh. Bonsoir, je peux vous demander vos impressions?
Oh ben oui, alors ben, j'étais en train de parler à mes enfants, à ma famille, à mes amis et dire qu'on avait adoré cette fraîcheur. On sentait qu'on était à la naissance de quelque chose de formidable et de très frais. Voilà, on sort avec beaucoup de bonheur.
Vous connaissiez Arcaos avant?
Oui, je connaissais. Oui, je les connaissais parce que sur Alès, je les avais vus à leur tout début dans des sortes de spectacles de rue. Il me semble, il y a bien longtemps, plus d'une décennie sûrement.
Oui, largement.
Voilà.
Et les enfants, ils ont aimé?
Ben oui, écoutez, c'est bien. Puis ils ont leur... Ils ont leurs impressions selon les âges, il y en a une qui se cache. Voilà, il faut leur demander.
Ça va être dur. Hein. Bon alors les grands.
Bonsoir.
C'était bien?
Oui, très bien. Excellent. Beaucoup de fraîcheur, de jeunesse. Et dynamique et tout, c'était sympa. Si
tu vois du cirque beaucoup toi?
Ben là oui, ici ça fait 2-3 fois que je viens à ce spectacle, à cette. À O.
Et, au domaine d'eau, ouais.
Voilà. Donc si, c'est resté ça. Bon.
Cette deuxième soirée d'Arcaos.
Deux soirées, oui, deuxième, plus serrée ce soir, plus tendue, et donc plus performant. Ouais, Non, non, plutôt une bonne réception du public aussi.
Très bon public.
Très bon public, bien attentif.
Christopher Krimes, directeur du domaine d'eau.
Il y a des moments où il faut beaucoup de concentration et la diversité de l'âge, mais tout le monde y était là, tout le monde a bien adhéré, me semble-t-il. Et quand on voit que ce sont effectivement ces jeunes internationaux sortant de différentes écoles qui travaillent vraiment pour la première soirée ensemble, moi je trouve ça très très bien. C'est une belle proposition et je suis content de l'accueil que le public lui a donné.
Il y a du monde, hein ?
Il y a du monde, c'était presque plein ce soir. On a une jauge de 500 places sous ce chapiteau et on était pas loin des 500 ce soir.
C'est bien. Merci beaucoup.
T'en prie, à bientôt.
Montage et réalisation, François Barrez, Vincent Cavaroc. Très chers divergents, c'était le troisième volet consacré à Arkaos, le cirque contemporain. Troisième volet, donc troisième et dernier volet, nous serons la semaine prochaine ici même pour rediffuser l'entière émission, c'est-à-dire c'est une heure et demie consacrée à Arkaos. Nous les avons suivis en décembre au Domaine d'Eau. Et pour leur changement de sujet, il s'agit évidemment de culture, c'est toujours les mardis rendez-vous. Et à notre table, on va aller vers des choses un peu moins circassiennes et plus plasticiennes, une petite pause musicale pour aérer tout ça. C'est monsieur Catherine. Francis et ses peintres, nouvelle version.
Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gamins me regardent énervés.
C'est pas d'habitude, sur un banane.
L'orchestre s'installe, les professionnels. C'est moi qui les interpelle.
Tu connais Charlie Mingus?
Par cœur, je le connais par cœur.
Davis, le nom est Davis.
Aussi, je le connais aussi. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Oscar Peterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton, de Duke Ellington. Et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie? Oscar Peterson. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le cours de ma vie.
Une reprise par mois, par semaine. Par semaine. Par toute l'année.
Et c'est Philippe Catherine, il nous a habitués à un autre registre, mais il nous habitue à tous les registres. Et là, c'est son album concept. Album, pas tout à fait, c'est plutôt un concept en soi. C'est toutes les semaines sur un site internet, une nouvelle chanson, un nouveau cover. Et il va puiser dans les répertoires les plus populaires pour donner son style toujours aussi singulier. Là, c'était une reprise évidemment de Michel Jonas, La Boîte de Jazz. On aura droit à une seconde tout à l'heure et il y aura peut-être même le fils de Françoise Dolto qui sera réincarné par Catherine lui-même. Je vous laisse découvrir.
Son massive attaque.
Et nous voilà sur le plateau avec une personne qu'on a déjà reçue, Dominique Thévenot, qui est maintenant directeur des arts plastiques à la ville de Montpellier. Donc la ville de Montpellier qui s'occupe de Sainte-Anne, de la galerie Saint-Ravi, de la Panacée, qui est un projet en devenir. Un autre invité qu'on a déjà reçu, me semble-t-il, Jay, à l'occasion de la Biennale des Jeunes Créateurs. Ça, c'est aussi une autre corde à l'arc de la ville de Montpellier. Et Dominique Thévenot s'occupe assez directement de la Biennale Sélection Grand Sud, me semble-t-il. Enfin, sélection qui va de Marseille à Montpellier.
Oui, de Pâques à Montpellier.
Voilà, exactement. Et nous sommes en compagnie également de Kader et Alex. Et c'est l'atelier qui est là pour nous parler d'un projet un petit peu atypique qui va se faire à Saint-Ravi. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez essayer de bousculer un petit peu les formats d'exposition, justement, en ne donnant pas tant de choses à voir, si ce n'est le processus lui-même.
Oui, des choses en devenir, oui.
Des choses en devenir. J'imagine que ça vient un petit peu en réaction aussi à une façon de travailler aujourd'hui, cette imposition de la monstration permanente, un endroit où vous vous posez dans l'idée de, venez assister au processus.
Alors non, justement, c'était pas forcément la volonté première. C'est-à-dire qu'on a, fait une demande il y a quelques mois à la mairie de Montpellier pour avoir des ateliers qui n'a pas abouti. Bon, ça, c'est les problèmes... indépendant de notre volonté, bref. Et donc on s'est proposé d'investir la Galerie Saint-Ravi en tant qu'atelier au lieu d'une exposition habituelle.
Et comment... Enfin, juste pour revenir un petit peu sur cette demande préalable, c'était lié à un espace, notamment un ancien lycée technique en reconversion.
Voilà,
et
c'était ça. Ouais.
Avec l'idée d'investir ce lieu sur un projet qui pouvait inclure des espaces de travail assez grands pour travailler aussi sur de l'œuvre monumentale et des choses comme ça.
Tout à fait, voilà. En fait, on a su qu'un lycée, le lycée Médas France.
Ouais. Anciennement Méditerranée.
Voilà. Donc un très grand espace déménagé. Et donc on a pensé à essayer de créer une sorte de friche comme il en existe dans de nombreuses villes. Marseille, Lyon, Lille, Le Havre, etc. Et donc, en fait, on voulait quelque chose d'assez souple, c'est-à-dire, donc on en a parlé assez vite à Dominique Thévenot, qui, lui, travaille sur la Panacée, mais avec des ateliers d'artistes qui seront sur des durées beaucoup plus longues et tournés un peu plus vers le national et l'international. Et donc, nous, notre volonté, c'était aussi de dire qu'il y a aussi des artistes à Montpellier, en fait.
Mais tu es international, Kader.
Et qu'il y a aussi des artistes à Montpellier issus de la Biennale, issus des Beaux-Arts. Donc c'était aussi une manière de fédérer tout ça avec des gens qui travaillent à l'École des Beaux-Arts comme Michael Viala, des personnes qui ont fait la Force de l'Art comme Grout et Mazéas. Bon, moi je travaille avec la galerie du Jean Agnès B et d'autres galeries. Donc c'était aussi dire qu'il y a aussi une effervescence et occuper un espace provisoirement, parce que l'espace allait être vide, et aussi avoir une sorte de structure plus souple qui permette d'accueillir des étudiants pour terminer un projet. Un artiste qui est au FRAC a besoin de 3 semaines, et bien qui peut aussi être accueilli. Donc voilà, c'était quelque chose qui en fait serait complémentaire de la Panacée, qui ne serait pas du tout en concurrence, mais qui serait beaucoup plus souple dans le fonctionnement et beaucoup plus ouvert.
Alors on a l'impression quand même qu'il y a il y a quelque chose d'un petit peu compliqué avec cette idée d'avoir à Montpellier des endroits un peu en friche.
C'est-à-dire ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas de friche à Montpellier.
Effectivement, on n'a pas un gros passé industriel. Mais...
Alors effectivement, je vois le problème de Mendès-France, où c'est très compliqué aussi parce que ça appartient à la région, c'est pas encore passé à la Serre, mais enfin c'est un sac de nœuds qui va... Et ça sera de toute façon un projet immobilier. C'est qu'à partir du moment où il y a eu cette vacance du lycée Mendès-France, j'en parlais avec ma collègue qui s'occupe de la danse tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une trentaine de dossiers, ça a été une volée de moineaux au-dessus. Et effectivement, moi, j'ai défendu le côté plasticien où il y a ce manque à Montpellier. On est en train de prendre le problème à bras-le-corps sur les arts plastiques à Montpellier, qui a été un petit peu, effectivement, à un moment donné, le maillon faible de la culture dans la ville. Ça est en train de changer avec la Panacée. Donc, effectivement, on s'est tous enthousiasmés pour ça. C'est très difficile, mais je pense qu'on n'a pas dit nos derniers mots. Maintenant, il faut répertorier des lieux. Je veux dire, bon, à la fois, on va dire, effectivement, c'est dommage que Montpellier ne soit pas une ville industrielle. À la fois, c'est ce qui fait la qualité de la vie à Montpellier. À la fois, effectivement, on aimerait bien qu'il y ait des friches, qu'il y ait des grands gars. Alors, il y en a forcément. Alors, après, ça appartient à des particuliers. Il y a des chais. On peut aller voir du côté des chais. Parce que ça, encore, c'est des lieux qui restent, qui sont du patrimoine et qui sont des lieux bâtis dans cette ville.
Le spectacle vivant, et notamment aller vers les chais, on pense aux chais du Terral, évidemment. Voilà. C'est vrai qu'on peut quand même être étonné à Montpellier. Plusieurs personnes s'en étonnent. Une ville de l'importance de Montpellier dans la région, finalement, une activité plastique qui est moins importante que celle de Sète, par exemple.
Tout à fait, mais si tu veux, c'est aussi une tradition. Effectivement, il y a eu une ouverture sur la danse, le théâtre, la musique à Montpellier, moins sur les arts plastiques. À Sète, il y a Noël Tissier qui a fait ce travail remarquable de pionnière, on peut dire, quand elle était directrice d'école des Beaux-Arts, d'avoir ce lieu. Il y a eu un maire qui a percuté dessus. Là, le maire de Montpellier, Hélène Mandrot, a quand même percuté sur le fait, après une discussion qu'on a eue sur la Panacée, donc on peut quand même lui rendre hommage d'avoir... parce que ça fait des années que j'ai envie qu'il y ait un lieu comme ça. Mais effectivement, pour moi, c'est important qu'il y ait des friches parce que c'est un complément à la Panacée. C'est créer de la vie. Parce que je connais, si tu veux, maintenant, dans les problématiques de l'art contemporain actuel, chacun n'est pas fermé sur son petit territoire. Donc ça va ouvrir des portes à ce que les artistes échangent entre eux.
Vous, aujourd'hui, vous avez quand même tous un passé lié à Montpellier, peut-être dans des phases aussi d'apprentissage. C'est-à-dire, il y a eu les Beaux-Arts pour la plupart d'entre vous, j'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas eu une nécessité de quitter la ville à un moment donné pour exister dans votre pratique ?
Alors non, je pense qu'on est tous différents dans l'association. Tout le monde ne vient pas de Montpellier. Moi ou Alexandre Présent venons par exemple de Nîmes. Par contre, on est attaché.
Je faisais voyager là.
On est, ça fait loin. Hein. Non, mais par contre, voilà, je pense qu'on est attaché. On s'est regroupé en association parce qu'on a envie de faire quelque chose à Montpellier, par contre, et de faire un avenir à Montpellier plutôt que d'y être attaché par le passé. Kader est arrivé récemment à Montpellier. Enfin,
de Mazamé,
voilà. On se rejoint. Quoi.
Moi, je fais un détour par Paris.
Parce que la démarche de se retrouver en tant que, pour fédérer un collectif de plasticiens, c'est plutôt. Je dirais pas complètement atypique, mais en attendant, c'est pas une démarche facile parce que, à la différence du spectacle vivant, de la musique, c'est une activité qui prête moins au fait de se fédérer parce que vous travaillez vachement dans une individualité et avec des moyens propres. Donc, ça, j'imagine que c'est une réponse aussi à tout ça et au fait de.
Mais en même temps, moi, je suis déjà passé par exemple à la Friche à Marseille pendant un mois et demi pour préparer une expo et j'ai déjà fait d'autres résidences. Donc, on voit aussi qu'en ville, les artistes se regroupent comme ça parce que déjà, c'est beaucoup à Berlin, c'est pareil. C'est beaucoup plus simple, c'est moins cher. On peut avoir des grands espaces et aussi il y a un truc tout simplement d'énergie qui est hyper stimulant pour tout le monde et en même temps même pour un lieu, c'est-à-dire c'est aussi une manière de faire revivre un quartier, même si c'est de manière très modeste. Par exemple, là, effectivement, il y a assez peu de friches à Montpellier. Mais ce qui est triste, c'est que du coup, ce lycée, donc, il y a 3000 m² qui est vide depuis le mois de mai. Enfin, depuis juin. Donc, la demande a été en juin. Donc, c'est que 7 mois. Mais pour des artistes, 7 mois, c'est énorme. Marseille, la friche, je suis resté un mois et demi. Déjà, un mois et demi, on peut voir une sorte de stimulation, de production qui est possible. Et c'est aussi, je crois que beaucoup de villes l'ont compris, c'est aussi une manière de... Les artistes sont là-bas, ils font des ouvertures d'ateliers, les gens viennent. On fait vivre aussi les commerces autour, les cafés. Mmh. Donc, c'est aussi une manière de...
De créer de la vie,
voilà, ce que font les artistes. D'ailleurs, Astérid est créé... Enfin, ils ont mis ça à Belle de Mai, qui est un quartier un peu périphérique à Marseille, où il se passait assez peu de choses. Et c'est aussi une manière de faire déplacer, revivre.
Vive la clope, c'était une ancienne manufacture de tabac.
Et en même temps, donc, c'est pas si atypique que ça. C'est un peu atypique à Montpellier, parce que ça n'a jamais existé. Et donc, toi, tu disais peut-être qu'il faut partir. Mais en même temps, je trouve ça assez beau d'essayer dans des endroits où ça n'existe pas, plutôt que d'arriver et d'utiliser déjà des structures.
C'est sûr. Nous, à notre petite échelle, on tente aussi cette résistance permanente. J'imagine que vous êtes tous animés, quand même, dans votre désir de vous fédérer par peut-être une esthétique commune ou sinon une esthétique, une démarche un petit peu artistique. Là, pour parler de l'artistique, qui va quand même à peu près dans le même sens, est-ce que vous pouvez la nommer, cette démarche, ou est-ce que finalement... Non, vous ne vous sentez pas sous une forme de chapelle commune.
Alors, pour apporter une toute petite précision, voilà, alors on s'est monté en association, on ne peut pas vraiment parler de collectif, dans la mesure où on respecte tout à fait nos libertés, nos individualités dans le travail, qui sont clairement émancipées, distantes ou les unes des autres. Mais que, voilà, on s'est juste retrouvés Alors sur le caractère humain, parce qu'on s'aime beaucoup les uns les autres et on s'est rencontrés, on est beaucoup devenus, je pense, amis après la création de cette association, mais on s'est fédérés en association pour un besoin commun d'espace de travail. Mmh. Ça, c'est la première chose qui nous a rassemblés.
Mais après, il y a des sortes de, enfin, on est des plasticiens, c'est-à-dire il y a une pratique contemporaine, donc on a chacun des pratiques très différentes, mais on essaie chacun de réfléchir à ces pratiques aujourd'hui, comment elles peuvent évoluer. Donc ça, c'est un lien possible, en fait.
Oui, rien que de notre rencontre, on arrive déjà à en apprendre et à tirer bénéfice déjà de ça, quoi. Mmh.
Pour revenir au projet qui est un petit peu le sujet ce soir, cette résidence à Saint-Ravi, comment, toi, Dominique, tu l'as accueilli?
Ben moi, je suis plutôt curieux, je ne l'ai pas accueilli tout seul. Hein. C'est un jury à Saint-Ravi qui est présidé par Michael Delafosse, adjoint à la culture, qui a poussé pour que Saint-Ravi prenne un petit côté un peu plus dynamique, jeune création et tout. Donc, moi, ça me passionne, c'est le concept qui me passionne. C'est-à-dire ce qu'on en vient d'en parler là au bistrot du coin, c'est-à-dire qu'effectivement tu peux passer devant plein d'ateliers, de gens qui font des choses et autres. Là, ce qui m'intéresse, c'est le côté aussi qu'ils auront un peu porte ouverte, et puis c'est le travail en train de se faire qui est intéressant. C'est vrai qu'une exposition, tu sais, il est prouvé qu'on reste 15 secondes devant une œuvre d'art. Là, c'est un travail justement en évolution. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Je sais que tous les jours, je vais aller y faire un tour. C'est comment Kader va commencer un dessin, puis comment dans quelle zone il va partir, comment Alex, comment Jay, comment ils vont tous, si tu veux, travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet espace commun de liberté, de travail, de création, un espace philosophique aussi, parce que je suppose qu'ils vont parler entre eux. Et après, comment la connexion doit se faire avec un certain public. C'est-à-dire que c'est un concept. Mais il ne faut pas que ce soit un atelier. Je te dis, les ateliers, il y en a plein où on n'a pas forcément envie de rentrer. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a envie de rentrer.
C'est vrai qu'on voit se redessiner un projet un petit peu plus ambitieux pour Saint-Ravi, parce que jusqu'aujourd'hui, on pouvait se dire Sainte-Anne est l'endroit de l'ambition, Saint-Ravi, l'endroit où on rangeait un petit peu.
Oui, à un moment donné, c'était un peu un exutoire. Ailleurs. Mais tu sais, le problème, que ce soit Montpellier ou ailleurs, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui se disent comme tels, des gens qui sont de toute façon immédiatement respectables. Et puis, il y a l'art en train de se faire, il y a le 21e siècle, tu vois, c'est difficile de confronter tout ça, de faire face à une société, parce qu'il y a un artiste qui fera... Moi, j'aime bien les peintres du dimanche. J'ai beaucoup plus de respect pour les peintres du dimanche que pour ceux qui se prennent déjà pour des grands artistes et autres. C'est-à-dire, faut prendre en compte, et puis peut-être les peintres du dimanche, il faut aussi leur parler, leur dire, leur faire voir des choses.
Leur dire que mardi, bon, ils peuvent quand
même... Oui, ils veulent travailler mardi. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a tout un travail à faire autour, et peut-être que le fait que des gens, que c'est quand même assez passant, Saint-Ravi. Donc le fait que des gens voient travailler nos petits camarades, là, ça leur ouvre un peu les portes d'une autre façon, mes petits camarades, une autre façon de travailler, parce que je les connais bien, parce que je connais un peu leur background, je sais ce qu'ils lisent, enfin tu vois, comment est l'essence de leur création. Donc c'est ça qui est intéressant. La création, c'est pas facile, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est pas facile. Donc c'est bien qu'on rentre dans ce monde, ça tombe pas, c'est pas le Saint-Esprit qui tombe, tu vois, il bosse. Ces gens, ils bossent, ils lisent, ils écoutent, ils sont ouverts sur le monde.
Enfin, à côté de ça, j'ai l'impression que c'est une idée qui n'est pas tout à fait neuve, c'est-à-dire l'idée de montrer le processus et de dire, bon voilà, l'artiste, il faut éviter de l'isoler pour que les gens le comprennent et qu'on puisse rentrer dans la démarche. Il y a quelque chose qui existe depuis longtemps.
C'est un peu redondant, oui.
Ouais, et pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a toujours envie de reposer cette question, parce que finalement, ce rapport au public garde toujours une certaine complexité.
Bah, s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Mmh. C'est-à-dire, enfin, il y a toujours ce rapport avec le public.
Mais en même temps, en fait, le projet était beaucoup, beaucoup plus simple. Bon, effectivement, ce point-là est aussi très intéressant, mais c'était en fait, on n'a pas d'atelier, donc on prend une galerie pour en faire un atelier. Mmh. Il y a aussi un geste.
Un squat légal.
Il y a aussi une sorte de symbole un peu qu'on trouvait ça. Et effectivement, cette galerie, il y a un petit peu tout. Donc c'était aussi assez drôle de faire ça dans ce lieu-là qui ne sert pas du tout à ça.
Disons qu'ils font un acte politique dans le sens politique pur. Dans le beau sens du politique.
Sans implication dans la ville.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est aussi une manière de montrer les artistes, c'est pas juste des expos qui sont présentés, on arrive, on boit un petit coup. Il y a aussi une réalité derrière ça, et c'était aussi parler de cette réalité-là et d'inscrire effectivement l'artiste dans la ville et de recréer ce réseau, c'est-à-dire en invitant les gens de plusieurs structures à Montpellier, de plusieurs lieux, en espérant qu'il y ait une sorte de petite émulation qui prenne.
Avant de poser quelques dates essentielles et de revenir un peu plus profondément dans le concept, je me tourne vers mon ami Manu à la technique, et on va aller vers un grand compositeur qui fut un peu l'égal de Debussy à son époque, c'est Carlos et son Papayou, repris par Catherine.
« suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Une panse bien ronde, des pieds, des grands pieds pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papayou, 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 papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas de si grand, faut pas le montrer du tout. Un jour l'institutrice me dit, mec, t'as grandi. Je réponds sans malice, mais mon papayou il grandit lui aussi. Elle me dit, je suppose que c'est une plaisanterie. Mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Oh, papayou, 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 papayou lélé. C'est le plus beau des papayou lélé que j'ai vu depuis des années. Papayou, 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 papayou lélé. Garde-le pour moi, ne le montre pas, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, plein de méchants qui n'en ont pas de si grand, plein de badauds qui n'ont rien vu de si beau, qui dirait partout c'est un drôle de joujou, faut pas le montrer du tout. Un jour à Colin-Maillard, une fille aux yeux bandés, le découvrant par hasard, me dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, 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 papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, 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 papayou lélé. J'ai le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Papayou, 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 papayou lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier.
Papayou, c'est Catherine, Francis et ses peintres. Deuxième morceau de cet album concept que vous pouvez retrouver. Sur quel site internet, mon cher Manu, peux-tu me dire, s'il te plaît?
Oui, je crois que ça s'appelle CatherineFrancisetSesPeintres.com.
Voilà. Quand on a une question, on demande à Manu. C'est ça, Divergence. La Divergence FM 93.9, on se retrouve en direct sur le plateau avec une tripotée de plasticiens et un tripoteur de commissaires d'expo, c'est Dominique Thévenot. mes chers amis, on est en plein délire. Bon, cet atelier, ce Saint-Rally qui va devenir un atelier, va aussi quand même devenir un espace de visibilité et de rendez-vous, des rendez-vous réguliers. Et là, je me tourne vers Alex pour annoncer... Exactement. Quelques rendez-vous réguliers.
Je laisse le temps aux gens de prendre leur petit stylo, leur petit papier. Alors, notez bien, le lundi 15, donc février, on commence par une crémaillère, bon, voilà, pour se présenter, s'installer, etc. Jeudi 18, ainsi que le jeudi 25, des présentations de travaux d'artistes sous la forme soit de conférences, soit de, disons, de performances. Voilà, ce sera selon. Et on termine le dimanche 28, le matin, par un petit déj lunch. Voilà, ça fait un peu classe et c'est pas mal. Exactement.
Un brunch.
Et pendant lequel il y aura deux concerts, un de Baptiste Brunello, aka le fils du chanoine, aka le testicule Billy Bandana.
Ah oui, je vois.
Et un concert de Sylvain Groot aussi. Voilà.
Sylvain Groot.
Oui, qui est plasticien et qui fait partie de l'association, enfin, etc.
Est-ce que là, justement, vous avez pu négocier en termes d'horaire? Parce qu'on sait quand même que des artistes n'ont pas forcément envie de se conformer à un rythme de travail qui serait l'ouverture de Saint-Ravi de 10h du matin à 18h.
C'est psychorigide. Hein,
ça ne dure que 2 semaines en plus.
Voilà, du moment qu'ils ne mettent pas le feu, je veux dire, ils ont quand même, ils sont tant soit peu de liberté, il faut simplement qu'ils nous préviennent, c'est tout. Bon, faut pas exagérer non plus.
On peut faire des nuits blanches si on veut, il faut juste le prévenir.
Voilà,
il
faut juste prévenir. Non, parce que si c'est un service d'alarme.
J'ai envoyé un texto à Dominique, c'est bon.
Non, mais
je sens la nuit blanche.
J'ai fait pire, tu sais, j'ai vécu. Mais simplement parce qu'il y a un truc d'alarme, mairie, effectivement, il faut que la nuit, que si jamais ils restent toute la nuit à travailler, ils peuvent, qu'on soit prévenu pour pas qu'ils aient un
fou. Non, c'est très cool.
Tu vois, et tout.
Non, pour ça, c'est très souple.
Quand même.
Est-ce que, là, je me tourne à nouveau vers Dominique. Est-ce qu'avec le contexte actuel, on n'y reviendra pas vraiment, mais cet élan-là qui est posé en ce moment par la ville vers la culture des arts plastiques, et avec la restructuration aussi en interne de pas mal des services de la ville, et plutôt dans un sens, dans un bon sens, me semble-t-il.
Oui, j'ai l'impression que c'est dans un bon sens. Il y a une restructuration, ce qu'il fallait, un peu technique, administrative. Tu vois, parce qu'on en a marre un peu de passer pour les glandules, c'est les gens de la culture. Enfin, il faut restructurer. Mmh. À la fois, il y a des choses un peu émouvantes qui font plaisir. Par exemple, j'ai une nouvelle directrice, Valérie Astesano, qui, à un moment donné, regardait les comptes en disant « Mais cet argent qui est placé à cet endroit, peut-être qu'il serait plus utile pour les artistes. » Ce genre de truc qui me touche. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit peu une restructuration comme ça, intéressante, et une visibilité de la ville. Et peut-être que, j'espère, je pense, avec la Panacée et autres, ça sera tout bénef pour eux, pour les artistes qui veulent s'installer, effectivement, pour créer de la vie. Je veux dire, le terrain est plutôt fertile en ce moment. Tu vois, j'ai connu des périodes un peu plus difficiles, mais là, le terrain est fertile. Et c'est aussi grâce à eux, parce qu'il y a aussi tous ces artistes qui se sont installés maintenant à Montpellier et qui aiment cette ville. Donc, c'est quand même respectable d'aimer la ville où on vit.
Quels sont les lieux, selon vous, sortis des grands lieux qu'on peut citer, évidemment, et qui forcément ne soutiennent pas forcément la jeune création. Quels sont les lieux Montpellier et alentour qui, pour vous, comptent aujourd'hui dans ce rapport, enfin, qui peuvent vous nourrir, qui peuvent vous donner un désir d'aller travailler avec eux? Est-ce qu'il n'y a personne, vous séchez?
Moi, je viens de m'installer, mais Jay et Alex, ils connaissent.
Non, mais
un truc comme Aldébaran.
Voilà, donc justement...
Continue.
Bon, très bien. Donc, comme Aldébaran, nous a fait un très beau cadeau, nous fait donc le plaisir de nous offrir l'accueil de leur espace qui est très beau, pour encore en disposer comme espace de travail. Donc, nous serons à Castries à partir du 1er mars pour 3 mois. Donc,
3 mois, waouh.
3 mois. Donc, on peut prévoir sur. On avait monté des projets sur du long ou moyen terme avec la ville de Montpellier. Pour le moment, on est un petit peu en attente et on va encore repiquer. Mmh. On a du très court terme à Saint-Ravi où on est disponible, visible en centre-ville à Montpellier. Mais on peut aussi travailler sur le moyen terme où donc à partir du 1er mars, on va pouvoir travailler à Aldébaran, donc à Castries, pendant 3 mois.
Ouais. Là, c'est pas mal. Il y a vraiment, vous commencez à instituer une forme de principe, hein, de résidence itinérante.
C'est un petit peu ça qu'on avait proposé dès le début, en fait. C'était l'occupation, puisque notre volonté, c'est avant tout d'avoir un espace pour travailler autant que possible. Et c'était l'idée que on est tout à fait à même de se déplacer, de suivre et de prendre les espaces quand ils sont disponibles les uns après les autres. Quoi.
C'est pour éviter que les artistes deviennent des petits bourgeois, en fait. Il faut les faire bouger sans arrêt.
Oh, même avec ça, on devient tous bourgeois, je te rassure. Merci beaucoup, messieurs. On annonce quand même quelques rendez-vous art plastique incontournables dans les jours qui suivent. Cette fin de semaine est riche en événements. Jeudi, c'est à Iconoscope que ça se passe, un vernissage d'un peintre dont on ne connaît pas le nom. Donc
on n'a pas pris nos tablettes, mais c'est intéressant. Un peintre, je crois, albanais, il me semble, qui travaille sur l'architecture et autres, qui a été choisi, en fait, qui a travaillé avec Zeman, qui a été quand même cet immense commissaire d'exposition, concepteur d'exposition, qui est mort il y a 3-4 ans. Donc c'est quand même un signe de qualité. Puis Iconoscope, c'est toujours de la qualité.
Exactement. Autre lieu de qualité, c'est le Crack à 7. Voilà. Ça, c'est Noël Tissier. C'est vendredi, le vernissage. Ce qui est toujours très bien, c'est que les vernissages au Crack sont toujours assez sympas. Il y a du pickpool.
Et on va aller se baigner après.
Exactement. Parce que même avec ce froid bien bourré, on se baigne. Et samedi, on se finit, comme on dit, à Sérignan, au musée de Sérignan, qui est quand même un endroit qui a vraiment fait ses marques et C'est quoi maintenant ? C'est devenu régional, me semble-t-il.
C'est devenu régional. Ça a été repris par la région. C'est Hélène Audifrenne, donc, qui est directrice de Sérignan, qui a beaucoup ramé. Enfin, c'était au départ André Gélis, qui était maire, qui a fait une collection. Enfin, il y a quand même, on peut reconnaître aux gens d'avoir ouvert des portes et autres.
Ah ben là, c'est André Gélis l'a ouvert, voilà, énormément. Lui, qui était ancien douanier, aux douanes pour les arts plastiques.
Voilà, c'est assez drôle, ces histoires. Et en fait, la région récupère le lieu dans le bon sens du terme, en insufflant de l'argent pour en faire vraiment un lieu, parce qu'il y a une collection, parce que c'est courageux d'ouvrir un lieu aussi silencieux et de le faire exister. Puis il y a le lac qui est pas très loin.
Enfin,
ça fait une sorte, le lac à Sigean, ça fait une sorte de ligne. Sigean, Sérignan, Sète, Montpellier, Nîmes avec le carré d'art.
Enfin, c'est un peu cette banane. Bruxelles, Amsterdam, Bruxelles, Paris, voilà, Barcelone.
C'est chic maintenant. Faut qu'on reste vivre au Toussaint avec les écoles des beaux-arts qui sont en train de se restructurer, tu vois, si c'est pas l'école de Nîmes quand même qui est pas mauvaise, l'école de Montpellier qui est aussi excellente.
Mais en fait, pour revenir à ce que tu disais, à ta question tout à l'heure, en fait, on n'est pas du tout isolé. C'est-à-dire, effectivement, il y a plusieurs, là, tu as parlé d'Aldébaran, mais toutes les institutions de la région ou de la ville, en fait, ont été très enthousiastes de notre projet. Ils nous ont soutenus à leur manière, que ce soit Dominique le Premier ou les Beaux-Arts ou le FRAC ou Dumont qui a voulu aussi
Catherine Dumont,
proposer une subvention. Et j'en oublie, mais tout le monde a été, enfin du coup, comme tu reparles de ces structures, Hélène Audifrin aussi était aussi enthousiaste. Et donc en fait, on n'est pas du tout dans un truc.
Ils sont enthousiasmants, c'est ça qui est terrible. Moi j'aurais envie d'avoir hérité d'un chai de ma famille et de leur offrir.
Donc on envoie un message à tous les. Voilà, exactement. Tous les gens qui, à la place de faire
Il y a des espaces au Crès, j'ai l'impression.
Merci messieurs, il est temps de se quitter. Merci Manu à la technique. On se retrouve mardi prochain avec l'intégrale Archaos, 1h30 consacrée à ce cirque contemporain que nous avons rencontré en décembre au Domaine d'Eau. Et ensuite, nous partirons dans une nouvelle série à épisodes où on interrogera le rock'n'roll à Montpellier et on sera complètement sous avec plein de groupes comme les Marvin et d'autres. Voilà, on espère en tout cas, parce qu'on ne l'a pas encore tourné, alors peut-être qu'on sera mort d'une cirrhose d'ici là. Rediffusion samedi à 20h, me semble-t-il. Sinon, www.divergence-fm.org. Salut à tous.
C'est lundi, dans mon lit. C'est lundi, dans mon lit. Les 11h, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, fait pas beau, fait pas chaud, me laver, me raser, m'habiller, me baigner, mes cheveux bien coiffés. Les midis, mes parents sont rentrés en criant, faut manger après travailler. Les 2h, je suis chômeur, je vais pointer près de chez moi. Dans mon cœur, il y a plein de couleurs. Juste après, je m'en vais.
Dans mon lit, c'est dimanche. Dans
mon lit.